La liste des griefs s'allongeait, interminable. On reprochait à Mortimer l'expédition militaire contre le comte de Lancastre. Les espions placés auprès du jeune souverain et qui avaient contraint celui-ci de se conduire plutôt en prisonnier qu'en roi, l'accaparement de vastes terres appartenant à la couronne, la rançon, le dépouillement, le bannissement de nombreux barons, la machination montée pour faire croire au comte de Kent que le père du roi était toujours vivant, ce qui détermina le dit comte à vérifier les faits par les moyens les plus honnêtes et les plus loyaux, l'usurpation des pouvoirs royaux pour traduire le comte de Kent devant le Parlement et le faire mettre à mort, le détournement des sommes destinées à financer la guerre de Gascogne, ainsi que des 30 000 marks d'argent versées par les Écossais en exécution du traité de paix. La main mise sur le trésor royal, de sorte que le roi n'était plus en état de tenir son rang. Mortimer était accusé encore d'avoir allumé la discorde entre le père du roi et la reine consort. Étant ainsi responsable du fait que la reine ne revint jamais à son seigneur pour partager son lit au grand déshonneur du roi, et de tout le royaume, et enfin d'avoir déshonoré la reine, en se montrant auprès d'elle comme son paramour notoire et avoué. Mortimer, les yeux au plafond et se caressant la barbe, souriait à nouveau. C'était toute son histoire qu'on lisait, et qui, sous cette forme étrange, allait entrer à jamais dans les archives du royaume. C'est pourquoi le roi s'en est remis aux comtes barons et autres pour prononcer un juste jugement contre le dit Roger Mortimer. Ce que les membres du Parlement, après s'être concertés, ont admis, déclarant que toute charge énumérée était valable, notoire, connue de tout le peuple, et particulièrement l'article touchant la mort du roi au château de Berkeley. C'est pourquoi il est décidé par eux que le dit Roger, traître et ennemi du roi et du royaume, sera traîné sur la claie et puis pendu. Mortimer eut un léger sursaut. Donc, ce ne serait pas le billot. Jusqu'au bout, il y avait de l'imprévu. Et aussi que la sentence sera sans appel, ainsi que le dit Mortimer lui-même en a autrefois décidé dans les procès des deux Despenser et du défunt Lord Edmond, comte de Kent, oncle du roi. Le clerc avait terminé et roulait les feuilles. Le comte de Norfolk, frère du comte de Kent, regardait Mortimer dans les yeux. Qu'avait-il fait, celui-là, qui s'était tenu bien quoi ces derniers mois, pour reparaître en affectant un air vengeur et justicier? À cause de ce regard, Mortimer eut envie de parler, oh brièvement, juste pour dire au comte maréchal, et à travers ce personnage, au roi, au conseiller, au lord, aux communes, au clergé, au peuple tout entier, « Quand il paraîtra au royaume d'Angleterre un homme capable d'accomplir telle chose que vous venez d'énumérer, vous vous soumettrez à lui de rechef, tout également que vous me fûtes soumis. Mais je ne crois pas qu'il naisse de si tôt. À présent, il est temps d'en finir. Est-ce maintenant que vous me conduisez ?» Il semblait donner encore des ordres et commander sa propre exécution. « Oui, my lord, » dit le comte de Norfolk, « c'est à présent. Nous vous menons aux Common Gallows. » Les Common Gallows, le gibet des voleurs, des bandits, des faussaires, des vendeurs de filles, le gibet de la crapule. « Bien, allons, » dit Mortimer. « Mais auparavant, vous devez être dépouillé pour la clé. Fort bien, dépouillez-moi. » On lui ôta ses vêtements, ne lui laissant qu'une toile autour des reins. Il sortit ainsi, nu parmi cette escorte chaudement vêtue, sous une petite pluie bruinante de novembre. Son haut corps musclé faisait une tache claire parmi toutes les robes sombres des shérifs et les vêtements de fer de la garde. La clé était dans le green, construite de lattes rugueuses posées sur deux patins et accrochée au harnais d'un cheval de trait. Mortimer conserva son sourire méprisant pour regarder cet équipage. Que de soins, que d'application à l'humilier. Il se coucha sans aide et on lui lia les poignets et les chevilles aux traverses de bois. Puis le cheval se mit en marche et la clé commença de glisser, d'abord doucement sur l'herbe du green, puis en raclant le gravier du chemin. Le maréchal d'Angleterre, le lord maire, les délégués du Parlement, le constable de la tour suivaient. Une escorte de soldats, la pique sur l'épaule, ouvrait la route et protégeait la marche. Le cortège sortit de la forteresse par le Traitor's Gate, où une foule attendait, curieuse, houleuse, cruelle, qui ne fit que grossir le long du chemin. Quand on a généralement considéré les multitudes du haut d'un cheval ou d'une estrade, c'est une impression étrange que de les regarder soudain depuis le niveau du sol, d'apercevoir tous ces mentons agités, toutes ces bouches déformées par les cris, ces milliers de narines ouvertes. Les hommes ont vraiment de mauvais visages observés ainsi, et les femmes également, des visages grotesques et méchants, d'affreuses gueules de gargouilles sur lesquelles on n'a pas assez frappé lorsqu'on était debout. Et sans cette petite bruine qui lui tombait droit dans les yeux, Mortimer, secoué et cahoté sur sa claie, aurait mieux pu voir ses faces de haine. Quelque chose de visqueux et de mou l'atteignit à la joue, lui coula dans la barbe. Mortimer comprit que c'était un crachat. Et puis une douleur aiguë, perçante, traversa tout entier. Une main lâche lui avait lancé une pierre au bas-ventre. Sans les piquer, la foule, s'enivrant de ses propres hurlements, lui déchirait sur place. Il avançait sous une voûte sonore d'insultes et de malédictions, lui qui, 6 ans plus tôt, sur toutes les routes d'Angleterre, n'entendait s'élever que des acclamations. Les foules ont 2 voix, une pour la haine, l'autre pour l'allégresse. C'est merveille que tant de gorges hurlant ensemble puissent produire 2 rumeurs si différentes. Et brusquement, ce fut le silence. Était-on déjà parvenu au gibet? Mais non, on était entré à Westminster, et l'on faisait passer la clé lentement sous les fenêtres où se pressaient les membres du Parlement. Ceux-ci se taisaient en contemplant traîner comme un marbre fourchu sur le pavé celui qui tant de mois les avait pliés à sa volonté. Mortimer, les yeux emplis de pluie, cherchait un regard. Peut-être, par suprême cruauté, avait-on fait obligation à la reine Isabelle d'assister à son supplice. Il ne l'aperçut pas. Puis le cortège se dirigea vers Tyburn. Arrivé au Common Gallows, le condamné fut délié et rapidement confessé. Une dernière fois, Mortimer domina la foule, du haut de l'échafaud. Il souffrit peu, car la corde du bourreau, en le soulevant brusquement, lui rompit les vertèbres. La reine Isabelle se trouvait ce jour-là à Windsor, où elle se remettait lentement d'avoir perdu, en même temps que son amant, l'enfant qu'elle attendait de lui. Le roi Édouard fit savoir à sa mère qu'il viendrait passer avec elle les fêtes de Noël.